Chapitre 10. Robert, Horace, Jacques et Claude dans l'intérieur de la Chine. La ville de Qingtufu. Un conseil de Claude Marteau. Ce que disait la foule. Le gouverneur de Qingtufu. Un mot sur l'organisation intérieure de la Chine. L'empereur. Les lettrés ou mandarins. Une chasse à l'hippopotame, le dîner, le vin chaud et le vin de riz, un rôti peu européen, les deux bâtons, la fourchette, les serviettes en papier, les noix et les amandes, une table à thé, voyage à la maison flottante, les buveurs d'opium, l'extase. Disparition inexplicable de Claude Marteau. Entrée dans Pékin. La grande pagode. Visite au gouverneur de la capitale. Le dignitaire. Une lettre de recommandation. La tour de porcelaine. Intérieur d'une maison chinoise. Le mandarin philosophe.
Dormez ici, messieurs, et dormez bien.
Ces paroles étaient prononcées par un mandarin de seconde classe et adressées à quatre étrangers récemment parés du costume chinois. Les étrangers, on le devine sans doute, n'étaient autres que Robert Kergorieux et Horace Verpré, qui étaient enfin parvenus à rejoindre leurs amis Claude Marteau et l'excellent Jacques. Partis de Macao, ils étaient arrivés jusqu'à la province du Sichuan. Là, une lettre de créance les avait favorablement présentés au préfet du Jardin des Fleurs. Ce mandarin était un homme d'une quarantaine d'années, court, large et tout rond d'embonpoint. Sa figure, relativement petite pour son gros corps, était assez intelligente. On remarquait, au-dessous de l'arcade sourcilière, deux petites fentes obliques par où le dignitaire regardait les nouveaux venus. Sa coiffure était ornée d'une plume de paon, l'une des marques distinctives de sa dignité. L'épître, qui venait d'un officier portugais, avait beaucoup plu au préfet, parce qu'elle le comparait à une colonne de cristal illuminée par le soleil, c'est-à-dire par l'empereur. Qingtufu, capitale de la province du Sichuan, est une des plus belles villes de l'Empire chinois. Elle est située au milieu d'une plaine d'une admirable fécondité. Ses principales rues sont assez larges, pavées en entier avec de grandes dalles et d'une grande propreté. Les magasins, avec leurs longues et brillantes enseignes, l'ordre exquis qui règne dans l'arrangement des marchandises, le grand nombre et la beauté des mouvements, tout contribue à ouvrir l'esprit du voyageur à cette vérité que l'Empire du Milieu est un grand pays. Dès le lendemain matin, en s'éveillant, les quatre amis pouvaient se dire qu'on fait en Europe mille contes saugrenus sur la Chine, mille histoires à dormir debout, où il n'y a le plus souvent pas un mot de vrai. Dans le XVIIIe siècle, Voltaire disait que c'était le pays le plus riche, le plus éclairé, le plus florissant et le plus heureux de la terre. Et Voltaire était dans l'erreur. Vers la même époque, Montesquieu écrivait que la Chine était un vaste amas de ruines, une agglomération de nations usées, encombrées de préjugés et d'ignorances, incapables de comprendre l'art, la littérature, les sciences et tout le mouvement de la civilisation. Et Montesquieu était de même dans l'erreur. Il n'y a de vérité qu'entre ces deux opinions. Les quatre amis commençaient déjà à comprendre le fait prodigieux d'un peuple de près de 400 millions d'habitants conquis par une poignée de Tartares mandchous. Ils entrevoyaient cette société bizarre où la force et la morale règnent de concert, où le faste coudoie la misère, où il y a des lettrés par milliers et des ignorants par millions, où le fond de l'industrie repose sur le luxe et où le chef de l'État, qui se dit cousin du soleil et de la lune, fait semblant d'être un obscur laboureur une fois l'an. Ce premier coup d'œil les avait singulièrement intéressés. « Ce n'est qu'un commencement, » disait Robert Kergorieux. « Nous aurons sans doute bien d'autres aspects curieux à considérer. » Claude Marteau fit alors une proposition. « En séjournant à Macao, » dit-il, « j'ai pu observer que le costume joue un grand rôle auprès des Chinois. On nous a fait prendre des habits de soie brune. C'était bon peut-être pour entrer dans l'Empire. Je crois que cette simplicité ne saurait suffire pour nous faire bien respecter des habitants des principales villes. Il nous faut quelque chose de moins modeste. » En Asie, en effet, l'habit est tout l'homme. L'habit fait le moine. Un dignitaire ne vous admet à lui faire votre cour que si vous portez tel ou tel costume. Un homme du peuple ne consent à ne pas vous insulter que si vous êtes vêtu avec une certaine magnificence. Justement, il se trouvait dans les bagages tout ce dont on avait besoin. Un habile tailleur fut appelé et confectionna à chacun une belle robe bleue de ciel, d'après la mode la plus récente de Pékin. Jacques était émerveillé de voir avec quelle dextérité travaillait l'ouvrier. « Tous les Chinois ont la main fort rapide !» lui disait l'Asiatique. Les voyageurs chaussèrent de magnifiques bottes en satin noir, illustrées de hautes semelles d'une éblouissante blancheur. « Avons-nous l'air assez chinois ?» demandait Claude Marteau au mandarin. « Non, pas encore. Il faut en outre vous occuper de deux accessoires indispensables, la coiffure et la ceinture. Eh bien, ce sera bientôt fait. » Claude Marteau prit dans une caisse quatre ceintures rouges et autant de calottes jaunes enrichies de broderies et du sommet desquelles pendaient de longs épis de soie rouge. Presque au même moment, on appela Robert pour lui remettre une grande feuille de papier rouge. Des caractères bizarres que le filleul du corsaire était assurément inhabile à lire se trouvaient tracés au pinceau sur cette pancarte. « Donnez !» lui dit Claude Marteau. « Je vais traduire ce texte. » C'était une invitation à dîner chez un mandarin de première classe, chez le gouverneur de la ville. Quand l'heure fut venue, ils montèrent en palanquin et partirent. Un mot en passant sur l'organisation de la société chinoise. En Chine, il existe, en apparence, un système de grande tolérance religieuse. On rencontre dans ces vastes états des mahométans, des sectateurs de Bouddha, des adorateurs d'idoles, des disciples de Confucius et, depuis un siècle et demi, des chrétiens baptisés et instruits par les missionnaires, si souvent victimes de leur zèle apostolique. En réalité, la religion n'est que l'accessoire dans l'Empire. L'idée de la famille, telle est, suivant le savant abbé Huc, le grand principe qui sert de base à cette politique. Il n'y a pas d'autre morale ni d'autre philosophie que celle qui roule sur les devoirs de la piété filiale. Tout attentat, tout crime et tout délit contre l'autorité, contre les lois, contre la propriété et contre les individus sont considérés comme des crimes de lèse-paternité. Tout acte de vertu se rapporte de même à la piété filiale. Être bon ou mauvais citoyen, c'est être bon ou mauvais fils. L'empereur de la Chine est la personnification de ce grand principe. Près de 400 millions d'êtres humains l'appellent père et mère.
Dans la langue du pays, on le nomme Huang Ti, Auguste souverain, ou Huang Chan, Auguste élévation. Absolument comme en Europe, on dit Altesse, qui est le même mot. Cependant, le nom par excellence de ce prince est Tianzi, c'est-à-dire fils du ciel. À côté du souverain, qui est donc regardé comme le fils de Dieu et honoré comme tel, sont les grands officiers de la couronne et les mandarins. Ces derniers tempèrent l'autorité absolue du monarque. On peut lire dans l'histoire de l'Empire que souvent les censeurs blâment vertement l'empereur si l'empereur s'est écarté du respect dû à la loi. Enfin, ces potentats, objets de tant d'hommages pendant la vie, sont soumis, après leur mort, comme on le raconte des anciens rois de l'Égypte, à un jugement dont le résultat est attaché à leur nom et passe à la postérité. Ils ne sont désignés dans l'histoire que par un nom nouveau qui, étant une appréciation de leur règne, exprime un éloge ou une satire. Parlons maintenant de la corporation des lettrés ou mandarins. Ce corps, recruté chaque année par la voie des examens, constitue une classe privilégiée, la seule noblesse reconnue en Chine. Quand on traverse l'Empire, on aperçoit ça et là, dans les villes, dans les villages ou même à travers les campagnes, un personnage habillé de soie, ayant une ceinture rouge ou jaune, une plume de paon ou un globule de cristal ou de porcelaine à son bonnet et 10 ou 12 porteurs à son palanquin. C'est ou un fils de mandarin ou un mandarin même. Les lettrés, nous voulons dire les mandarins, une fois leurs examens passés, entrent ou dans l'administration, ou dans l'armée, ou dans la marine. S'ils se distinguent dans ces carrières, ils reçoivent des titres tels que Kung, Heu, Fi, Tse et Nan, qui peuvent correspondre à ceux de duc, marquis, comte, baron et chevalier. Ces divers titres ou grades ne sont pas héréditaires et ne donnent aucun droit aux fils des individus récompensés. Mais ce qui paraîtra bizarre aux Européens et ce qui est conforme aux idées chinoises sur la paternité, ces honneurs retournent aux ancêtres comme un hommage. Dans la plupart des livres français qui parlent de la Chine, le signe distinctif des mandarins est appelé bouton. L'abbé Huc, déjà cité, ce savant missionnaire qui a parcouru et habité l'Empire du Milieu, pense que ce mot est mal approprié à la chose. S'il faut l'en croire, les diverses catégories sont séparées les unes des autres par des globules particuliers de la grosseur d'un œuf de pigeon et qui se vissent au-dessus du chapeau officiel. Ce globule distinctif est, pour le premier ordre, en corail rouge uni, pour le second, en corail rouge ciselé. Pour le troisième, en pierre bleu clair ou transparent. Pour le quatrième, en pierre bleu mat ou foncé. Pour le cinquième, en cristal. Pour le sixième, en jade ou pierre de couleur blanc opaque. Pour le septième, le huitième et le neuvième, en cuivre doré et ouvragé. Ainsi qu'on l'a déjà vu, le gouverneur de Qingtufu était un mandarin de première classe. Dès que ses invités furent arrivés, il se présenta et les introduisit dans une salle à manger où ils trouvèrent un sixième convive. C'était un mandarin, aussi de première classe, un officier de la marine impériale nommé Ni Ying. Il était de taille moyenne et portait déjà un gros ventre comme presque tous ses compatriotes.
« L'illustre mandarin que je vous présente, dit le gouverneur de Qingtufu, est un soleil de gloire. Il a visité la terre presque tout entière. Il a assisté à d'éclatants combats. Il a soumis des vingtaines de peuples.
Claude Marteau et Jacques n'ignoraient point que dans leurs discours, les Chinois sont toujours portés à l'exagération la plus excessive. Mais Robert Kergorieux et Horace Verpré, qui n'étaient pas encore au fait de ces usages, avaient grand peine à comprendre ce superbe langage que leurs amis traduisaient pour eux. De tous les exploits de l'officier de marine, celui qu'il considérait comme le plus réel était non une série de victoires, ni la soumission de plusieurs villes, mais une très belle chasse à l'hippopotame qu'il se mettait en devoir de leur raconter. Voici de quelle manière se fait cette chasse. Très usitée à Sumatra, en Afrique et dans les îles de la Malaisie. L'hippopotame, le soir venu, aime à quitter les fleuves ou les marais où il passe sa vie. Il arrive sur les bords, dans les jungles ou dans les champs, quelquefois par bandes de 20 ou 30, quelquefois seulement 2 par 2. Toujours très vorace, il se met à paître et il se gorge jusqu'à ce qu'il s'endorme. Les chasseurs arrivent alors et, avec des lacets ou des filets de cuir, lui encapuchonnent la tête et lui lient les pieds. On l'entraîne alors à quelques pas, si l'on peut, ou bien on le fusille sur place. Une telle chasse n'est pas toujours sans danger. Il faut savoir être agile pour échapper aux pieds et aux groins terribles de l'animal.
« J'en ai jeté 6 à terre !» disait l'officier de marine.
Ce récit terminé, on prit place devant une table carrée. Selon la pratique chinoise, le dîner commença par le dessert. Au fond, les 4 Européens trouvaient fort plaisante cette distribution du festin. Ils s'amusèrent une demi-heure environ avec des fruits, des confitures et des sucreries, menu monnaie de la gastronomie que les cuisiniers du Céleste Empire excellent à préparer.
« Que voulez-vous boire ? Du vin chaud ou du vin de riz ?»
C'était ce que demandait le gouverneur. Claude Marteau répondit que, par curiosité, ses compagnons et lui goûteraient des 2 liqueurs. Depuis que l'Empire du Milieu, ouvert à la civilisation européenne, par les canons de la France et de l'Angleterre, nous devient de plus en plus familier, la cuisine chinoise cause à tout le monde de très grandes surprises. L'art culinaire n'y procède que par extravagance. Nos invités devaient en faire l'expérience. Après le dessert dont il vient d'être question, un domestique apporta sur un plat d'argent des ailes de requin aux épices. Un autre servit sur un plat de porcelaine des vers du tulipier au beurre rehaussé de gingembre. Un troisième exhiba dans un compotier des jeunes pousses de frangipanier confites dans du vinaigre.
« Voilà un singulier menu !» se hasarda à dire Horace Verpré en français.
Nos 4 invités avaient une faim extrême et l'on conviendra que les plats que nous venons d'énumérer et qui sont d'obligation dans tous les dîners chinois, n'étaient guère de nature à l'apaiser quand ils virent enfin apparaître un morceau de viande supérieurement rôti et très appétissant. Claude Marteau et le bon Jacques, plus au fait des usages du pays, sourirent légèrement. Quant à Robert et à Horace, ils croyaient très sincèrement que c'était un gigot de mouton. Aussi, après en avoir mangé chacun une bonne tranche arrosée d'un jus délicieux, ils furent très satisfaits et témoignèrent hautement tout le contentement qu'ils éprouvaient. « Mais quelle espèce d'animal est-ce donc ? » demandait timidement Robert en français.
« Tu es bien curieux, » répondit Horace, « on ne te le dira pas. »
En vrai breton qu'il était, le filleul de Robert Surcouf avait au fond de la cervelle une forte dose d'entêtement.
Peut-être, disait-il en y revenant, peut-être les moutons chinois ont-ils la chair plus tendre que les nôtres. Enfin, pour avoir le cœur net de ses doutes, il eut recours au moyen suivant pour reconnaître le nom de la bête dont on avait extrait ce savoureux morceau. Ses trois amis le virent faire un signe au gouverneur de Tchintoufou. Il posa ensuite le bout de ses doigts près du plat sur lequel était le gigot et se mit à bêler.
« Bé, bé !» dit-il.
Le gouverneur de Tchintoufou, qui ne savait pas plus de français que Robert ne savait de chinois, fit un signe de la tête qui voulait dire
« Vous n'y êtes pas, monsieur !»
Puis il poussait par trois fois ce cri d'un son non équivoque.
« Wa, 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 wa !»
Bref, il venait d'aboyer.
« Ah bon ?» riposta alors Robert Kergorieux. « Nous avons mangé du chien rôti, mes amis. Nous voilà fixés. »
Dans la suite de leur voyage en Chine, les quatre Français devaient constater que les enfants du Fils du Ciel sont très friands de la chair du chien, non pas du chien vagant dans les rues et à travers les champs, mais d'un chien spécial, engraissé et soigné pour figurer un jour comme un excellent plat de rôti sur la table des grands. Habiles dans mille choses étranges, les Chinois réussissent à merveille dans cet élevage.
« Pourquoi ne ferait-on pas du chien ? » disent-ils. « Ce que vous faites du mouton, de la chèvre et du porc, du cerf, du sanglier, des volailles et des poissons ?»
Ce gigot, si peu européen, n'avait pas été la seule cause d'étonnement que les quatre Français eussent rencontré à la table du gouverneur. Claude Marteau, servant d'interprète à ses amis, adressait des questions aux deux mandarins sur l'ordonnance du repas.
« Illustre lettré, demanda-t-il aux deux dignitaires, mes compatriotes ne comprennent pas fort bien votre manière de manger. Par exemple, pourquoi commencez-vous par le dessert pour finir par le potage ?»
Le gouverneur de Tchintoufou répondit,
« Monsieur, pourquoi les Français commencent-ils par le potage pour finir par le dessert ?»«
Parce que c'est l'usage. Pourquoi buvez-vous le vin chaud et tout fumant dans des godets en porcelaine ?»«
Parce que c'est l'usage, » répondit le Chinois. « Et vous, pourquoi buvez-vous le vin froid dans des verres de cristal ?»«
Toujours parce que c'est la coutume, » répondit Claude Marteau. « Mais, illustre mandarin, pourquoi vous servez-vous de deux petites baguettes en guise de fourchette pour saisir les mets qu'on apporte, coupés à l'avance, en menus morceaux ?»«
Et parce que c'est notre coutume à nous autres. Remarquez, s'il vous plaît, que vous, hommes d'Europe, qui ne vous servez pas de deux bâtons, vous avez une espèce de trident en argent ou en fer avec lequel il est très facile de se percer les lèvres ou de se crever les yeux. »
Au fait, qui avait tort ou raison, des Françaises ou des Chinois? Les invités remarquèrent en outre que, dans un dîner chinois, on employait, au lieu de serviettes, de petits carrés de papier soyeux et coloriés dont on avait placé une provision à côté de chaque convive et qu'un domestique emportait à mesure qu'on s'en était servi. Au moment où l'on allait apporter le potage, c'est-à-dire sur la fin du repas, l'officier de marine, s'adressant à Claude Marteau, lui dit, tout en riant aux éclats,
« Monsieur le Français, dites-nous donc, je vous prie, à l'illustre mandarin et à moi, pourquoi sur les tables de vos pays on sert des noix et des amandes avec leurs coques et pour quel motif les domestiques ne se donnent pas la peine de peler les fruits et de désosser la viande ?»
Claude Marteau, pris au dépourvu, déclara qu'il n'avait à répondre que ces mots, toujours les mêmes.
« C'est l'usage du pays !»
Le festin terminé, les convives se levèrent. On enleva la grande table et nos quatre voyageurs parlèrent de se retirer.
« Où allez-vous ? »
leur demanda le gouverneur.
« Rejoindre notre habitation chez le préfet du Jardin des Fleurs ?
répondit Robert Kergorieux par l'organe de Claude Marteau.
« Mais point du tout !» reprit le mandarin. « Nous ne considérons pas du tout la fête comme complète. On va préparer sans doute vos palanquins, mais on disposera les nôtres en même temps. Il faut que vous voyiez les beautés de la ville. »
« Mille grâces vous soient rendues, illustre lettré, » répondit Jacques. Très peu d'instants après, les palanquins étaient prêts. La dignité du gouverneur lui donnait le droit de faire servir chacun d'eux par 12 porteurs et de les faire escorter par des hommes à cheval. Avant de pénétrer jusqu'à cette profondeur de l'Empire, les étrangers avaient habité et vu à loisir Macao, ville chinoise mêlée de tant d'éléments portugais. Le costume, les mœurs, le langage, l'architecture, tout leur avait fourni dans cette ville un spectacle nouveau. Ici, c'était bien autre chose. Macao n'est qu'une frontière, une ligne de démarcation où les factoreries du Portugal, de l'Angleterre et de la France font la loi à l'élément asiatique. Aussi les Chinois la traitent-ils de cité barbare. Mais à Tsingtoufou, il n'existe pas le moindre alliage d'Occident. C'est bien l'immuable pays de Confucius, cette terre où tout le monde est vêtu de soie, où tout homme tient d'une main un parasol et de l'autre un éventail, où la population masculine porte cette longue queue qui fait ressembler tout individu à un animal et où les femmes ont le pied rapetissé dès l'enfance de manière à ne pouvoir faire un pas qu'en sautant à la manière des chèvres. Les palanquins s'arrêtèrent près d'un charmant petit fleuve dont les eaux limpides et bleues coulaient entre deux rives ombragées de saules verts et de rosiers gigantesques. Sur un signe du gouverneur, un navire sans voile, une jonque faite en bambou, s'approcha et les six promeneurs y montèrent. « Où allons-nous, illustre lettré ?» demanda à son tour Robert Kergorieux au mandarin.
« À ma maison des eaux !»«
Voilà encore une bizarrerie !» observa Horace. « Ils disent « ma maison des eaux » comme nous disons nous autres « ma maison des champs ». Horace aurait pu ajouter que, près des grands centres de population, pour économiser le terrain ou trop rare ou trop coûteux, on organise des rues entières qui forment ensuite ce qu'on appelle des villes flottantes. Pour le moment, la petite maison suffisait à captiver leur attention. Elle était surmontée de ce double toit à coins relevés qui est le signe particulier de l'architecture nationale. En y entrant, ils y trouvèrent tout ce qui constitue le luxe dans ces pays du soleil, des appartements spacieux, richement ornés, tout calfeutrés de tapis aux couleurs voyantes. La flore de cette portion de l'Asie étalait par là ses richesses sans nombre, le carambolier, l'iris bleu et or, le grenadier aux fleurs noires et aux feuilles roses, particularité de ces climats. Aussitôt qu'on fut installé, le gouverneur de Tsingtoufou appela et ses serviteurs se présentèrent.
« Nous allons fumer l'opium, » dit-il.
Il n'y a pas d'Européen qui ne tremble à l'audition de pareilles paroles. L'opium, poison qui enivre, est le fléau de la Chine moderne. On sait que la Grande-Bretagne tire de cet ingrédient terrible qu'elle fabrique et qu'elle vend au Céleste Empire un peu plus de 150 millions par an, somme formidable. L'argent n'est encore rien. Tout Chinois qui a le malheur de fumer l'opium ne tarde pas à y perdre la santé et bientôt la raison. À Canton, à Nankin et à Pékin, il n'est pas rare de rencontrer sur le pavé des rues des malheureux haves, décolorés, épuisés, l'œil hagard, la langue hors de la bouche, tout le corps tremblant, ce sont les fumeurs d'opium. Les dignitaires, tels que ceux qui accompagnaient les quatre Français, savent un peu modérer leur fougue en ce qui touche cette substance mortelle, mais dès que cet extrait du pavot devient une habitude chez eux, ils arrivent peu à peu à une horrible décomposition, comme les gens du peuple.
« Messieurs, fumez-vous ?»«
Nous essayerons, » répondirent les Français. Seul Jacques protestait. Il voulait que ses jeunes amis n'acceptassent ce point.
« Laisse donc, » lui dit Robert à voix basse. « Il faut bien que nous sachions ce que c'est, puisque nous voyageons pour voir et pour apprendre. D'ailleurs, une fois n'est pas coutume. »
Ils étaient couchés sur des lits de rotin, deux par deux, la tête un peu relevée. Une petite lampe, répandant la clarté d'une veilleuse, était placée entre les deux fumeurs, ainsi qu'un pot de porcelaine qui contenait l'opium et deux petites broches en fer. Un plateau supportait ces divers objets. La pipe est une espèce de demi-sphère creuse. Au centre, elle a un petit trou d'environ 2 mm de diamètre et sur le côté, un trou plus grand auquel s'adapte le tuyau. Le fumeur prend au bout de la petite broche une petite quantité d'opium semi-liquide et il la chauffe à la flamme de la petite lampe. On embouche ensuite le tuyau et après 3 ou 4 aspirations, la boulette est entièrement consumée et l'on recommence le même manège. Il paraît qu'il y a des Chinois qui fument 60 de ces pipes par soirée. Cela dure jusqu'à ce que l'extase de l'ivresse se déclare. Quels songes voltigent donc alors autour de leurs yeux? Quelles illusions les bercent? On suppose que ces mensonges d'un sommeil factice sont bien séduisants, puisque les malheureux tombent ensuite du délire jusque dans la prostration et dans l'abrutissement les plus complets. Au sortir de ces extases, le corps s'amaigrit, la face se décolore, un tremblement continuel agite les membres et peu d'années après, la mort se présente. Dans la petite maison flottante, on fuma environ 20 minutes et l'on rêva 3 heures. Quand le sommeil cessa et que la raison reparut, on annonça l'embarcation qui devait ramener tout le monde à terre. La nuit commençait à descendre sur la terre. « Qu'as-tu vu pendant ton rêve ?» demanda Jacques à Robert. « Une sorte de palais tout pavé et tout tapissé de diamants. Et toi ?»
La petite maison de Saint-Malo, entourée de haies d'aubépines et à moitié cachée par les pommiers en fleurs.
On abordait la terre. Déjà les palanquins s'approchaient, environnés de leurs porteurs et des cavaliers de l'escorte. Tout à coup, Horace prit la parole.
« Ah ça, Robert » dit-il. Est-ce que je suis encore sous l'empire d'un rêve? Voilà 5 minutes que je me frotte les yeux. Je regarde avec soin de tous côtés et je n'aperçois plus Claude Marteau.
Jacques, saisi d'un petit frisson de crainte, se mit à crier.
Claude! Claude! Où es-tu donc?
Robert allait et venait.
Illustre lettré, reprit Jacques en s'adressant aux deux mandarins. Est-ce que notre ami n'est pas resté par mégarde à la petite maison?
L'officier de marine répondit.
Vous avez bien vu qu'il est descendu comme nous dans l'embarcation.
C'est juste. Mais alors qu'est donc devenu Claude Marteau?
Jacques alla au gouverneur de Tchintoufou.
Illustre globule, dit-il, vous voyez notre chagrin. Nous ne retrouvons plus notre 4e ami. Apprenez-nous où il peut être.
Le gouverneur, déjà fort troublé par les boulettes d'opium qu'il avait fumées, répondit
« Où est cet étranger? Qui peut le savoir? Dans l'empire du milieu, on a bien assez de peine à savoir où l'on est soi-même. »
Il ne fut pas possible de lui faire dire autre chose. Voyager en palanquin, même à 4 ou 6 porteurs, c'est marcher à petite journée. 3 mois environ après l'aventure dont il vient d'être question, nos voyageurs, toujours inquiets de Claude Marteau, s'avançaient jusqu'aux portes de la capitale de l'Empire. Le lendemain, ils faisaient leur entrée à Pékin. Si l'on veut bien se reporter à la date des premiers temps de ce récit, on verra que cette ville considérée à cette époque comme un but mystérieux et presque inabordable pour les Européens, à l'exception de quelques courageux lazaristes qui bravaient mille morts pour aller enseigner l'Évangile à ces peuples, les Occidentaux n'avaient encore que très rarement porté leurs pas dans cette immense cité, résidence du Fils du Ciel. Il s'en fallait de 20 ans que le moment fût arrivé où les armées combinées de la France et de l'Angleterre forcerait par une victoire les portes de cette capitale. Aussi n'entrait-on dans Pékin qu'avec un certain sentiment d'appréhension bien facile à comprendre. Cependant, comme ils avaient recueilli en route un grand nombre de lettres de recommandation, ils se sentaient peu à peu rassurés.
« Qu'on essaie de nous faire un mauvais parti et nous trouverons vite des protecteurs, » disait Jacques. En route, au milieu d'un contact continuel avec les mandarins les plus instruits, Robert Kergorieux et Horace Verpré s'étaient aisément mis au fait de la langue. Ils savaient du moins assez de chinois pour se faire entendre et pour comprendre sans difficulté ce qu'on leur dirait. Pékin leur causa une sorte d'éblouissement. À l'affluence des allants et venants à travers les rues, ils auraient deviné une ville d'un immense circuit. Cette population, presque entièrement habillée de soie, toute couverte de couleurs vives, était bien faite pour étonner leurs regards. Ils ne se lassaient pas de considérer ces groupes de mandarins, grands dignitaires de l'Empire, pour la plupart, marchant avec le parasol et l'éventail, et montrant avec une satisfaction mêlée d'orgueil leur gros ventre, chamarré de broderies. Faire un dieu de son ventre est un proverbe français qui mériterait bien d'être chinois. Nos amis faisaient mentalement cette réflexion, et quelques autres, quand ils se trouvèrent en face de la grande pagode. Jamais ils n'avaient rencontré rien de comparable à ce temple merveilleux, s'élevant à 8 étages jusque dans les airs. « Y peut-on entrer ?» demanda Robert à une espèce de serviteur qui les accompagnait.
« Pas avant d'avoir fait une visite à quelques personnages de distinction, » leur répondit ce cicérone.
Il leur tardait d'ailleurs de faire des démarches qui pussent les renseigner sur Claude Marteau. « Le plus simple, » dit Jacques, « serait de se présenter chez le gouverneur de Pékin lui-même. Nous avons assez de lettres de recommandation qui nous introduisent auprès de ce magistrat. » On s'arrêta à ce projet. À 2 heures de là, nos Européens entraient dans l'antichambre du gouverneur.
« À la bonne heure ! Ces barbares-là ont pris notre costume !»
s'écria une sorte de secrétaire qui vint les recevoir pour les introduire auprès du gouverneur de Pékin. Ce personnage, pour ne pas descendre des hauteurs de sa dignité, resta assis à l'arrivée des 3 étrangers. Il était placé sur un tabouret de bambou, adossé à une table à thé. Son riche costume et surtout son bonnet attestaient suffisamment qu'il était mandarin de première classe. Sa figure, tout à la fois grave et bienveillante, était animée par 2 yeux assez ouverts et empreints d'un profond sentiment de finesse.
« De quel pays venez-vous » demanda-t-il.
« De la France, » répondit Robert Kergorieux d'une voix ferme.
« Puisque vous êtes des hommes de France, eh bien, parlez, ne vous gênez pas. Je ferai pour vous tout ce qu'il sera possible de faire. »
« Illustre lettré, » dit Robert, étant à Tchintoufou, au sortir d'une maison flottante appartenant au gouverneur de cette ville, nous avons perdu un des nôtres, et il ne nous a encore été donné aucun moyen de le retrouver. Comment faire ?»«
Ah ! » s'écria le mandarin. « Que demandez-vous là ? Un homme perdu ! Si c'était un objet d'or ou d'argent, il se retrouverait sans doute. Si c'était un cheval, un chameau ou un éléphant, on vous le payerait. Si c'était un habit ou un palanquin, on vous en donnerait 2 autres en retour. Mais un homme ? En quoi voulez-vous que le céleste empire, qui a 400 millions d'habitants, s'inquiète d'un homme ?
Mais, se hasarda à dire Horace, j'ai lu quelque part une sentence par laquelle Confucius prétend qu'un ver de terre doit être respecté par le Fils du ciel.
Sans doute, repartit le gouverneur de Pékin. Confucius l'a dit, et Confucius est le sage des sages. Mais pour en revenir à l'ami que vous avez perdu, je ne sais pour vous qu'un moyen de savoir de ses nouvelles, c'est d'aller trouver de ma part l'homme qui connaît tout.
Qu'est-ce que l'homme qui connaît tout ? Probablement le chef de la police du pays, murmura Horace.
C'est un mandarin vénérable, le plus savant des lettrés, répondit le dignitaire.
Un serviteur s'approcha, donna au chinois une feuille de papier, une écritoire et un pinceau. En deux tours de main, le haut fonctionnaire eut écrit ce qu'il souhaitait d'envoyer à celui qu'il avait nommé. Il se leva ensuite à demi de son siège, salua à demi et congédia les visiteurs. Les trois Français se remirent donc en route, allant à la recherche de l'homme qui connaît tout. « Prenons des palanquins, c'est toujours plus respectable, » dit Jacques. La résidence de l'homme qui connaît tout n'était qu'à deux pas. Sur la seule présentation de la lettre du gouverneur, la porte s'ouvrit comme par enchantement. Dans leur naïveté, nos Européens s'attendaient à trouver une manière de magistrat entouré de scribes et de fonctionnaires de la police. Ils ne rencontrèrent qu'un mandarin, philosophe, seul, très confortablement mais très modestement logé. Ce solitaire les reçut un à un avec la politesse affectée des gens de sa nation. La lettre lue, l'homme qui connaît tout leur adressa la parole.
« Comment votre ami a-t-il été perdu ? » demanda-t-il.
« À la suite d'une promenade à une maison flottante où l'on avait fumé de l'opium. »«
Ah ! »
s'écria le philosophe, moitié colère, moitié souriant.
« Les Européens aussi fument donc ce poison qu'on appelle l'opium ? L'opium changerait l'esprit le plus subtil en une bête des plus grossières. » L'opium a peut-être troublé la cervelle à votre ami au point de le pousser à se jeter à l'eau. L'opium lui a peut-être inspiré le désir de se faire au chinois. Votre ami a eu tort de céder à l'entraînement de l'opium. L'opium a pu l'égarer. L'opium lui aura donné le conseil de vous quitter.
Voilà ce que nous ne pouvons admettre, illustre mandarin, riposta Jacques. Claude Marteau est un garçon qui a le cœur bien situé et dont l'humeur n'est pas changeante. Il ne peut qu'avoir été victime de quelque machination.
Eh bien, que voulez-vous ?
Apprendre seulement de quel côté il est. Le mandarin, un peu adonné aux sciences occultes, comme les tireuses de cartes et les diseurs de bonne aventure, prit un instrument d'astrologie, un peu pareil à un astrobal, fit deux ou trois mouvements, marmotta quelques paroles incohérentes et dit
« Messieurs, l'ami que vous cherchez est en ce moment dans le pays des papillons. »«
Qu'est-ce que le pays des papillons ?» demanda Horace Verpré.
« J'ai dit tout ce que j'avais à dire, » répondit froidement le mandarin philosophe.
Et il les congédia avec un grand salut.